Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Vous le savez, il y a différentes formes de lecture et j'aime beaucoup lire toutes sortes de choses. Je suis principalement attachée à l'histoire, mais j'aime aussi, j'adore les polars, les thrillers, les trucs qui font peur, qui vous font frissonner devant une série ou un film ou devant un bon livre. Et dans la cour des grands, eh bien souvent viennent s'ajouter des talents où le suspense vous prend à la gorge, où par un mot, une phrase, une écriture, un sujet, une idée, eh bien vous vous dites décidément vivement le prochain livre. Mon invité d'aujourd'hui, vous le connaissez, il a écrit déjà deux romans et qui ont reçu moult succès, également l'un des prix pour le dernier, La forêt des disparus. C'est un vrai bonheur de le retrouver parce que c'est une voix chaleureuse, c'est un sourire et un rire avenant, et c'est surtout une belle écriture, c'est un bel auteur et c'est une belle personne. Bonjour Olivier Ball.
Bonjour Claudine, je suis ravie d'être à vos côtés.
Merci, merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation pour délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier roman, Méfiez-vous des anges, aux éditions XO, roman thriller bien évidemment. Alors je le disais, on a fait votre connaissance avec Clara Miller, le mystère de Clara Miller. Ensuite, La forêt des disparus qui a remporté un franc succès et qui continue d'ailleurs, ce que je crois qu'il va être édité en pocket.
Tout à fait, il vient de sortir, ouais.
Oui, il vient de sortir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se trimballer avec. Et puis, donc là, on vous retrouve avec Méfiez-vous des anges. Alors, c'est un sujet, on le disait hors micro, très particulier puisqu'on va parler des sectes, hein, des gourous, de ce côté ténébreux, mystérieux et dangereux et inquiétant. Et je disais, au-delà de ça, et on va le développer, c'est presque un essai sociologique parce que vous traitez de sujets aussi de notre temps, dirais-je. Alors, d'abord, pourquoi... Alors, on va résumer. C'est une sur les collines de Californie, une secte, l'enceinte, qui somme toute semble tranquille et pacifique. Pourquoi avoir pris déjà ce sujet de la secte et du gourou et de tout ce qui l'entoure?
Alors, en fait, c'est vraiment un sujet qui, moi, m'a toujours passionné, très intéressé. Oui. Et en fait, quelque part, qui était un petit peu sous-jacent à travers tous mes récits jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par les mécanismes de manipulation, d'endoctrinement. C'était déjà un peu le cas avec l'affaire Clara Miller, où on parlait de notre rapport à la célébrité, c'est-à-dire combien on peut aussi entrer en dépendance par rapport à une idolâtrie face à des grandes stars.
T'as fait.
C'était aussi un peu le cas dans La forêt des disparus, à travers ce petit village de Redwood qui vivait comme communauté fermée au monde et à l'extérieur. Et je voulais aller plus loin encore et en effet vraiment m'intéresser au mécanisme de l'endoctrinement. Comment quelqu'un qui somme toute peut-être vous comme moi peut tomber sous l'emprise d'une secte, peut tomber sous l'emprise d'un gourou et complètement perdre ses repères. C'était ça vraiment l'idée clé du livre.
Alors là, il y a deux héros marquants, principaux, il y a d'autres personnages. Alors, c'est toujours difficile, là, je le dis à chaque fois pour les auditrices, auditeurs, je le répète, mais on ne peut pas aller dans le vif du sujet, on aborde, parce que c'est un thriller et donc l'intrigue et la lecture fait partie du mystère et de la découverte, bien évidemment, mais il faut donner l'envie en même temps aussi. Donc deux personnages, Paul Green qui est ce journaliste abîmé par la vie, cabossé, comme vous le dites, cabossé par la vie. Et puis de l'autre côté, il y a Sarah Shelley, qui est inspectrice aussi. Et donc, leur mouvement dans leur enquête, dans ce qu'ils vont découvrir, va finir par les rejoindre. Alors, Paul Green, lui, il va faire un truc que moi, j'ai trouvé assez gonflé. Il va, rentrer dans l'enceinte. Il va s'infiltrer, comme on dit, pendant plusieurs semaines. Et je me suis dit, quand même, de la part de Olivier Ball, c'est gonflé parce qu'il va falloir ensuite gérer le mécanisme de la peur, de l'infiltration. Comment va-t-il s'en sortir?
en effet, ce qui était intéressant à travers justement le cheminement de Paul dans ce roman, c'est que on va dire que Paul fonctionne un peu par spirale dans le livre. C'est-à-dire qu'au début, il est vraiment extérieur à cette secte. Pour résumer, en effet, l'enceinte, c'est la communauté de la secte qui s'appelle La Voix, qui est un grand mouvement américain que j'ai inventé, mais qui est un grand mouvement, une sorte de spirituel américain qui existe depuis une trentaine d'années, qui est établi, qui est installé, qui est même un peu protégé par les lois américaines, on y reviendra peut-être. Et du coup, qui a vraiment pignon sur rue, qui est bien accepté, qui a une vraie reconnaissance, même médiatique, puisque des grandes stars, dont une célébrité, font partie du mouvement.
Ouais.
Donc, quelque part, on va dire une secte bien sous tout rapport a priori.
Mmh.
Et en effet, Paul va s'en approcher, va finir par s'infiltrer parce qu'il va essayer de retrouver une jeune femme, Linda Richardson,
ouais,
qu'il recherche depuis plusieurs mois et
qui a disparu,
pense
qui a disparu.
Est enfermée là-bas.
Ouais.
Et en effet, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de casser ce schéma de la secte diabolique où tout de suite on dit « Oh, il se passe des choses terribles et terrifiantes dans cette secte ». Au contraire, moi je voulais jouer sur le trouble, le malaise, créer une sorte de mal-être qui grossit au fil des pages où on se dit « Il se passe quand même quelque chose de bizarre entre ces murs
».
Et Paul va gratter et au fur et à mesure va en effet déterrer des choses pas très claires.
Oui, parce qu'il y découvre des rites, une ambiance qui est un peu... Alors, c'est très bien fait et là-dessus, j'admire ça parce que... Je ne sais pas si vous avez intégré une secte, je ne pense pas, mais la façon, l'humeur de Paul, la façon dont il découvre les rites, cette espèce, vous savez, de chair de poule, on le ressent avec lui. Et ça, c'est fort bien décrit parce que au fur et à mesure du temps, on peut se dire, il l'infiltre, c'est progressif, et puis ça monte, il s'aperçoit des choses, l'interrogation est là, et puis, au fur et à mesure du temps, c'est pas terrible finalement parce que c'est une secte, bien
oui,
évidemment.
Tout à fait. Alors, il est vrai que pour moi, ça a été vraiment l'un des grands défis de l'écriture de ce livre. Ça a été les premières étapes de documentation. J'ai passé un an et demi en amont à vraiment documenter au maximum parce que même si j'assume complètement le fait qu'il s'agisse d'une fiction, ce que je veux, c'est vraiment entraîner mes lectrices et mes lecteurs dans une aventure, les dépayser, qu'ils soient entraînés dans ce thriller addictif, évidemment. Mais je voulais aussi être précis, être entre guillemets juste, si on peut l'être quand on écrit une fiction. Donc j'ai énormément étudié, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les mécaniques d'endoctrinement à travers plusieurs livres, notamment un super livre de Jean-Marie Abgral, qui est une référence, qui est un psychiatre, un psychologue français, qui a travaillé sur vraiment les mécaniques d'endoctrinement, qui a témoigné notamment sur l'ordre du temple solaire. Donc il était vraiment au cœur de tout ça, qui connaît très bien tout cela. J'ai regardé énormément de documentaires sur le sujet. Alors non, je ne me suis pas infiltré moi-même dans ce secte, mais j'ai pris tout ça. Et en fait, je me suis laissé un petit peu digérer parce que je ne voulais pas non plus faire un essai journalistique, je voulais raconter mon histoire. Donc il m'a fallu ensuite créer entre guillemets la secte comme une sorte de Lego que j'allais monter jour après jour, semaine après semaine. Donc ça a été à la fois mettre en place une idéologie, quelle serait l'idéologie de la voix, quels seraient les dogmes prêchés par cette communauté, mettre ensuite en place un schéma, on va dire, économique, comment elle s'est enrichie, comment elle s'est étendue à travers les États-Unis, et ensuite même la structure, on va dire géographique, comment l'enceinte, la communauté s'est construite, quel type de choses elle fait au quotidien, voilà. Donc c'était vraiment, en fait, pour moi, c'est toujours cet enjeu que j'ai dans mes livres, c'est de vous faire croire dès les premières lignes, dès les premières pages, en l'existence de mon propos. Donc ici, c'est l'existence de cette secte. Donc je voulais que rapidement, en quelques pages, vous dites, l'enceinte, la voix, ça existe. Et pour moi, la plus belle des récompenses, c'est quand les gens viennent me voir en dédicace et me disent, mais vous savez que j'ai été faire des recherches sur Internet et j'ai vérifié pour voir si la voix existait, si c'était un vrai mouvement. Là, ça veut dire que pour moi, de mon côté, c'est un petit peu gagné.
Oui. Alors de l'autre côté, nous avons, si je puis dire, nous avons Sarah Shelley, donc l'inspectrice, qui elle est appelée en urgence parce qu'on a découvert le cadavre d'une jeune femme qui est morte en s'étant vidée de son sang. Alors je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, mais c'est vraiment un moment terrible aussi. Ça, c'est moi, ça, quand j'y repense, ça me fait encore un peu froid dans le dos. Et ce qui est extraordinaire aussi dans ce moment, parce que finalement vous parlez d'Hollywood, il y a le côté paillette, le côté sabri, et puis il y a tout le côté ténèbres, c'est-à-dire les bas-fonds. Mais même moi, je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse parler de bas-fonds pour Hollywood. Et ça, c'est fort aussi parce qu'on passe, on parle de la secte, là on se dit, on va respirer un peu, on respire pas du tout, on s'enfonce encore un peu plus.
Oui, c'était ça, puisque en fait, c'est vraiment le cœur du récit, c'est cette dichotomie entre la lumière et les ombres, puisque c'est, on va dire, le dogme de la secte, l'enceinte, c'est ça. Il faut chasser les ombres qu'on a au corps de nous-mêmes pour aller vers la lumière. C'est tout le discours qu'ils ont construit. Et en fait, je voulais le retranscrire dans le roman. Donc, on a en effet ce parcours de Paul qui a l'air d'aller vers la lumière à travers cette secte. Voilà, on est sur les collines de Californie, dans les vergers, les vignes. C'est solaire, c'est éclatant. Il y a des rires partout, des gamins qui courent. le bonheur a priori, en effet. Et de l'autre côté, l'enquête de Sarah, qui, elle, va l'emmener dans les bas-fonds, dans les tréfonds de Los Angeles. Moi, ce que je voulais, c'était casser un peu l'habitude de lecture ou de l'imagerie qu'on a de Hollywood et de Los Angeles. Je vais raconter une autre Los Angeles. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller énormément quand j'étais journaliste, vraiment au moment où se passe le bouquin, c'est-à-dire dans les années 2010. Ouais. Et j'avais été, en effet, marqué par cette rupture, cette scission entre d'un côté cette richesse outrancière, cette manière d'étaler comme ça les fortunes à travers les gros cylindrés, les grosses voitures, certains quartiers comme Rodeo Drive avec des boutiques de luxe à l'infini, ces grandes villas dans les hauteurs, et puis à l'inverse, ces gens qui crèvent de faim dans la rue à vos côtés sans que personne ne les regarde. J'ai vraiment vu des scènes surréalistes de pauvreté,
des gens qui vivent dans les tentes, sur les trottoirs, au milieu des esplanades.
Exactement, c'est vraiment à Los Angeles, et ça existe depuis maintenant une trentaine, quarantaine d'années. Il y a ce fameux quartier dont je parle dans le livre, qui s'appelle Skid Row, qui est une sorte de zone de non-droit, qui est un favela, un ghetto au cœur de la ville, plusieurs blocs en fait sont quelque part condamnés, puisque ce sont des clochards, des sans-domicile fixe qui vivent à même la rue dans des conditions absolument choquantes. Mais malgré tout, ça continue, ça ne change pas. En fait, on détourne le regard. C'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé à travers le parcours de Sarah. C'est comme ça de raconter aussi les laissés pour compte, les toxicomanes qui vivent dans les squats, ces fameux sans domicile fixe aussi à travers le regard de Paul, et puis aussi toute la banlieue, on va dire, tous ces quartiers un peu dont les autorités ont complètement
baissé les bras, oubliés.
Ouais. Aujourd'hui aux mains des gangs, et ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Quoi. Comment on vit dans la peur quand on vit dans des quartiers comme ça on entend des tirs de balles tous les soirs, on a peur de rentrer chez soi. Voilà.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça, il y a une forme d'essai entre guillemets sociologique dans votre livre, parce que effectivement des sectes on va en parler qui sont à ciel ouvert et qui sont autorisées, dirais-je, par le ou les gouvernements, et puis cette extrême pauvreté aussi qui fait face à une richesse extrême, à du factice, à du bling bling, à du clinquant, parce que tout ça derrière, quand on gratte un petit peu, quand on voit leur vie, finalement quand on voit un procès qui se déroule en ce moment, qui est très célèbre avec deux acteurs célèbres, on se dit ne nous faisons pas d'illusions de toute façon quand même.
Très intéressant ce que vous dites, Claudine, parce que j'y ai justement pensé récemment à travers ce procès. Je ne sais pas si on peut citer les stars en question.
On peut, bien sûr.
Donc le procès de Johnny Depp et Amber Heard, que je suis de manière lointaine, mais il est vrai qu'à travers ce que j'en vois, il y a une mise en abyme qui me rappelle, moi, le travail que j'ai eu dans mon bouquin.
Complètement.
Ce qui m'intéressait avec l'idée de placer ce récit, en effet, à Los Angeles, et évidemment Hollywood, moi, je suis un grand amateur de cinéma depuis que je suis gamin, je suis un grand amoureux du cinéma.
Bienvenue au club.
C'était aussi de raconter, moi, ce qui m'a toujours marqué avec cette ville, c'est que c'est même plus largement la culture américaine, c'est que c'est une culture de façade, de faux-semblants, de décor. Et là, on y est vraiment à Hollywood, c'est vraiment ce côté... moi, je voulais aller montrer ce qui se passait derrière les décors, ce qui se passait derrière les façades, derrière les sourires étincelants, derrière les corps bodybuildés, derrière les
rien n'est vrai.
Les visages retravaillés à coups de bistouri et de chirurgie esthétique. Et en fait, ce qui me marque aussi, pour finalement raccorder à ce fameux procès de Johnny Depp et Amber Heard, c'est que j'ai même l'impression que dans leur réalité, quand on les voit témoigner, ils sont en train de jouer. Oui. C'est-à-dire que quand je vois ces extraits, puisque aujourd'hui, en Angleterre comme aux États-Unis,
on peut voir les extraits.
On voit des extraits, on voit donc que c'est quasiment filmé comme un film. C'est-à-dire qu'il y a des chants, des contre-chants sur Johnny Depp puis Amber Heard en fonction des témoignages. Et il y a cette air apitoyé. L'un comme l'autre sont hyper bien habillés. On se demande s'ils ne sont pas super maquillés. Donc, on a l'impression que même dans le réel, il y a une forme de mise en scène. En fait, on se demande, est-ce qu'un jour, ces personnes sont-elles vraiment
la question que je me suis posée. Est-ce que Johnny Depp, il a un visage qui est quasiment lisse, alors rien ne transparaît, il a le regard vide. Est-ce que ces gens-là, à un moment donné de leur vie, sont des humains, sont réels?
C'est vrai qu'on en parle aussi justement dans le bouquin.
Oui.
C'est un peu tout le sujet aussi en sous-texte dans le livre. C'est sur ce... on va en parler peut-être aussi, mais sur notre rapport aussi à l'immortalité, ce besoin, cette illusion de croire que voilà, que le temps glisse sur nous et
Oui.
voilà.
Alors, ben, justement, par rapport à cette immortalité, puisqu'on parlait des acteurs d'Hollywood, c'est repousser le temps, repousser la vieillesse. On en est tous là. On veut pas de marque,
Ouais,
on veut pas de rides, on veut
complètement.
rester jeune, bien évidemment. C'est
Complètement.
cette culture du jeunisme à outrance, mais on en oublie à ce moment-là, en tout cas pour ces gens-là, d'être humain et que ben on est, on vit, que la jeunesse, la vieillesse fait partie de la vie, qu'il faut vivre les choses du mieux possible. Mais ça, voilà, ça semble très compliqué. Mais cette course au jeunisme, et d'ailleurs, pour faire une parenthèse sur le procès en cours, on a l'impression que quand Johnny Depp regarde les vidéos de leur scène, puisqu'ils filmaient leurs propres disputes, on a l'impression qu'il regarde un film. On
Mais
n'a pas
c'est ça en
l'impression.
fait qu'il faut
On n'a pas l'impression
justement, c'est
qu'ils se regardent, qu'ils
qu'ils s'auto-documentaient
Oui,
eux-mêmes
c'est ça.
en filmant. Bon, bref,
C'est
non, c'est
incroyable. On pourrait
mais
en parler des heures, hein, ça c'est sûr.
ouais, c'est ça. Mais en effet, pour rebondir sur ce que vous me disiez sur le culte du jeunisme et l'effacement du temps et de la mort, c'est quelque chose aussi qui m'intéressait parce que et encore une fois, c'est pas du tout pour me poser en tant que juge.
Oui,
Moi,
bien
moi, je
sûr.
m'intègre vraiment à tout ça et j'essaye tout le temps dans mes livres, en tout cas, de ne jamais être donneur de leçons. On va dire d'ouvrir des petits sentiers de réflexion et puis que les gens, les lectrices et les lecteurs, y aillent d'eux-mêmes, fassent leur chemin avec ça, mais pas du tout d'arriver en disant voilà, ainsi est le monde et puis écoutez ma loi. En effet, ce qui m'intéressait avec ça, c'est vraiment que je trouve que ça fait aussi un peu écho à la crise qu'on vient traverser avec le Covid. C'est que j'ai l'impression qu'au moment du Covid, on s'est rendu compte aussi qu'on n'était pas immortel,
On y est
que
toujours, hein.
n'importe
On
qui,
n'en parle
voilà,
plus, mais on y est toujours, hein.
on y est toujours, oui, mais que n'importe qui pouvait tomber,
Bien
pouvait se
sûr,
faire avoir.
bien sûr.
Et donc, c'est aussi, ça a été une des petites, des idées comme ça qui me tournaient autour, où moi, j'ai toujours été interpellé, en effet, par ce souci d'Hollywood d'effacer le temps à travers ses acteurs. On a l'impression, quand on sort d'un film avec
C'est
une grande
ça,
star
c'est
hollywoodienne, de
ça.
dire, mais c'est fou, il vieillit pas. Donc on pense à Tom Cruise, on pense à plein d'autres, des hommes comme des femmes.
Bah,
Et
Tom
en
Cruise
effet,
qui
bah,
fait
j'ai
partie
découvert,
d'une secte très connue,
et
hein,
qui fait
d'ailleurs.
une partie de la scientologie,
La
exactement,
scientologie, oui.
dont je parle en creux aussi un peu, je
Tout à
pense,
fait.
à travers les dogmes de la voie. Et il est vrai que ce qui me fascine, c'est notre rapport en effet à tout ça, où moi j'ai découvert en creusant des choses assez hallucinantes, comme cette fameuse technique dont je parle, qui s'appelle le beauty
Le
work,
beauty voile,
et
oui.
qui est utilisée dans les grosses productions américaines, où en effet un budget d'effets spéciaux est alloué pour retoucher les visages des stars, pour effacer les cernes, les
Oui.
rides, les marques du temps. Et en effet, bah, du coup, nous on a l'impression, on se dit, mais on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'un tel ne vieillit pas dans ses films? Pourquoi est-ce que pour, et pourquoi moi, je
Ben
dois vieillir? Donc, à notre petite échelle, on essaye aussi
oui.
de peut-être de se protéger. Et puis aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est bah, on vit à travers les filtres de nos réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde utilise des filtres pour apparaître plus jeune quand il met une vidéo en ligne ou quoi. Peut-être qu'un jour, on aura des miroirs qui nous filtreront naturellement et qu'on ne se verra plus jamais tel que l'on est, quoi.
Ouais.
Donc, il y a une sorte de glissement comme ça vers cette illusion de l'immortalité
C'est vrai.
qui est assez terrifiant, ouais.
Alors durant ma lecture, je me suis fait deux réflexions, puis il y a, enfin, qui se sont imposées à moi au fur et à mesure du temps, justement dans le sujet de sur Hollywood, sur le côté clinquant, la lumière, et puis à côté la pauvreté, les gens qui vivaient dans la rue et qu'on ne veut surtout pas voir, et qu'à la limite, je dis pas qu'on exterminerait, mais parce qu'ils dérangent. Vous savez, ça m'a fait penser aux films de cow-boys et d'indiens. C'est-à-dire les Indiens qui étaient exterminés parce qu'ils occupaient une terre, on voulait pas les voir, ils gênaient, c'était notre culture, on les extermine. Et l'Américain était tout puissant, le Hockey Corral ou Dieu sait quoi avec comment il s'appelait, John Wayne. Je sais pas pourquoi ça s'est imposé à moi, vous savez.
Non, mais
Ça
c'est
gêne,
juste.
ça gêne, ça dérange. Alors.
C'est ça. Non, mais c'est assez juste parce que de toute manière, aujourd'hui, j'en parlais déjà un petit peu dans La Forêt des Disparus, les États-Unis sont construits quand même sur une idéologie qui est celle de la destinée manifeste pour justifier la conquête, on va dire, des colons et leur expansion à travers les terres, en partant de la côte est vers la côte ouest. Il y a toute cette idéologie qui s'est construite autour de la destinée manifeste selon quoi les colons américains, les pionniers, étaient un peuple élu. Qui devait justement conquérir, amener la bonne
Bien sûr,
parole
ouais.
et fertiliser ces terres,
Évangéliser les
évangéliser le
terres
monde et
aussi.
fertiliser ces terres. Et donc, quelque part, il en reste encore quelque chose aujourd'hui dans
Bien
ce
sûr.
côté. On doit conquérir, on doit aller de l'avant, on doit toujours voilà, prendre ces terres. Donc, en effet, je pense qu'il y a une logique de remplacement permanent
Oui.
où, en effet, du coup, aujourd'hui, peut-être qu'on voit avec les gens en difficulté, les gens sans domicile fixe, riches ou quoi, ou même les gens des classes moyennes, voire pauvres, ben on préfère éradiquer, effacer, délaisser.
Oui.
On l'a vu à travers la crise des subprimes aussi aux États-Unis.
Bien sûr, en 2008.
D'un seul coup, des milliers, des millions de personnes
ont perdu leur maison, tout perdu.
Sans maison, et en fait, plutôt que de les reloger, on a préféré... notamment dans les quartiers dans les coins comme Détroit ou quoi, il y a des quartiers entiers avec des maisons vides.
Ouais.
Et c'est ce côté, on détourne juste un peu le regard, et puis voilà, on voit plus ce qui s'est passé là. Et c'est pareil avec les problèmes de misère, en effet, dans les grandes villes.
Bien sûr.
C'est ce qui s'est passé aussi à New York, sous le règne de Giuliani, le maire de New York.
Oui, l'ancien maire de New York, oui.
Ouais, on a dit notamment que la ville avait retrouvé sa splendeur, qu'il n'y avait plus la misère et les sans-domicile fixe et les toxicomanes qui erraient dans les rues, alors qu'en fait, il a simplement nettoyé quelque part à coup de carcère.
Oui, il a repoussé les limites. Alors certes, il y avait peut-être un peu plus de sécurité, probablement.
C'est ça, mais il a repoussé les malheureux.
C'est ça.
Plus profondément dans les parkings.
Ouais, parce que quand vous
allez dans les banlieues.
Ouais,
quoi.
Moi, je connais bien New York et ses alentours. Et quand vous allez sur Harlem, le nombre d'handicapés, de déambulateurs, de fauteuils roulants, de maisons qui tombent en ruine. Et pourtant, Dieu sait si c'est une population qui est gaie, qui a envie de vivre, qui a la musique au cœur. C'est vrai que moi, ça m'avait fait aussi un peu bondir. Alors, une autre réflexion aussi lors de ma lecture, justement, pour parler de la voix, de l'enceinte, de cette secte où tout semble bien, justement, il fait beau, c'est merveilleux, on entend les enfants, on entend presque la musique, et il y a en parallèle donc ce côté très noir d'Hollywood. Et je me suis dit, d'un côté, il y a ce qui n'est pas autorisé, finalement, la secte, bon, elle est autorisée, elle est validée, mais bon, malgré tout, on verra après que... Mais elle est authentifiée, donc elle est là, elle existe, et on l'autorise. Mais il y a quand même une part d'illégalité, hein, de toute façon, ouais. Puisqu'on endoctrine les gens, les manipule. Puis d'un autre côté, il y a cette pauvreté à Hollywood qui est validée, alors qu'elle est autorisée. Et vous voyez, c'est deux mondes. Alors d'un côté, c'est cette lumière qui n'est pas légale et qui est autorisée, cette noirceur qui est entre guillemets légale et qu'on veut chasser. Et j'ai fait le parallèle entre les deux et je me suis dit, mais ces deux mondes-là, c'est pas la même planète. C'est pas la même planète.
Ouais. C'est ça. C'est ça. Et puis l'idée aussi à travers le parcours de Paul, qui, comme vous le disiez, donc est mon personnage qui m'accompagne maintenant depuis trois livres avec Méfiez-vous des anges, qui est là avec moi depuis l'affaire Clara Miller.
Oui.
Et moi, ce qui m'intéresse avec lui, c'est de le construire et on va dire même plutôt de le déconstruire. Mmh. C'est que moi, j'aime les personnages qui évoluent. J'ai pas envie d'écrire une saga avec un super flic qui encaisse et qui ne bouge pas.
Il est attachant, moi j'aime beaucoup Paul Green.
Voilà.
Très attachant.
Moi, c'est une forme d'anti-héros, c'est quelqu'un qui se trompe, qui a peur, qui doute beaucoup.
Mais Sarah Shelley aussi.
Sarah aussi, même si elle, pour le coup, c'est vraiment une inspectrice des
homicides. Oui, bien sûr.
Très professionnelle, on va dire, trop peut-être. Mais en attendant, Paul, c'est vraiment quelqu'un de faillible, de fragile. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au début de Méfiez-vous des anges, moi, je le réintroduis évidemment pour tous les lectrices et les lecteurs qui ne connaissent pas le personnage.
Pour le présenter,
commencer un nouveau livre, bien sûr. Il est déjà bien abîmé. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'à un moment, comme vous le dites très justement, Paul va arriver dans cet Éden, ce havre de paix de l'enceinte, et va à un moment se poser cette question en disant, mais et si finalement, c'était la famille que j'ai toujours recherchée, et si c'était la paix que j'ai toujours recherché.
C'est ça justement qui est...
On peut se complaire dans une forme d'illusion.
C'est trompeur. C'est trompeur.
Assez fascinant
bien
aussi
sûr.
À travers les recherches que j'ai faites sur les sectes, c'est que, en fait, il y a quelque chose moi qui m'a vraiment troublé, c'est combien les anciens adeptes ont du mal, même après avoir quitté une secte, à en dire du mal, à la critiquer, à critiquer les gourous. J'ai vu
c'est le syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm.
Oui, voilà, complètement. 30 ans après, continue à fondre en larmes quand il parlait des années passées dans la secte en disant qu'ils avaient connu l'amour, ils avaient connu l'amour absolu, le partage. Et un peu dans le même ordre d'idées, quand une secte est en train de s'effondrer, que les fondations s'effritent, que par exemple, le cas de le massacre de Johnstone en Guyane dans les années 70, Osho en Oregon avec Rajneesh Puram dans les années 80, c'est des faits qui ont commencé à être critiqués par les médias. Donc c'est arrivé aux oreilles des adeptes et il y a cette envie de croire malgré tout. C'est ça qui est terrible aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont passé 20 ans, 30 ans, qui ont tout sacrifié pour ces sectes, qui ont laissé de côté leur famille, parce que les sectes ont toujours vous isolé Daesh.
Bien sûr.
Donc, tout tourne autour de cette secte. C'est vraiment tout leur système de pensée tient à cette secte, à cette bulle. Mmh. Et en effet, ils préfèrent continuer à croire alors que tout leur dit que c'est faux, plutôt que remettre en question toute leur existence, parce que c'est aussi accepter qu'ils sont trompés.
Oui.
Et c'est ça qui est terrifiant.
Oui,
c'est
mais justement,
ça qui est vraiment terrifiant.
Justement, on parlait de la vie éternelle. Dans les sectes, on est tellement bien qu'on veut croire que tout est possible, que la vie éternelle peut exister, que le gourou peut tout. C'est ce qui fait aussi le piège, c'est-à-dire qu'on offre une vie confortable, c'est le soleil, c'est la vie, c'est les bisounours. C'est-à-dire que la possibilité qu'on peut repousser la mort et que l'au-delà, enfin que l'au-delà, que l'éternité sur Terre, que éternellement ça peut exister. Ça continue, quoi qu'il arrive.
Et je pense aussi qu'il y a ce besoin, cette quête de sens qu'on a et qui en ce moment est assez troublante et qui explique aussi, le fait que pas mal de nouveaux types de sectes sont en train d'émerger parce qu'on est en pleine perte de sens en ce moment. Mmh. Et il est vrai que dans une société comme la nôtre où on peut se demander pourquoi est-ce qu'on vit et est-ce que tout ça a un sens, les sectes, elles, vous donnent
des réponses, donnent
des réponses face au chaos qui est celui de nos vies, quoi. Mm-hmm. Donc en effet, c'est plus facile d'espérer, de croire. Et puis il y a souvent cette dimension aussi, quand vous faites partie d'une secte, vous faites partie d'un cercle, d'une forme d'élite, vous êtes un peu un élu. Vous allez être mis au courant au fur et à mesure de votre progression dans les différents cercles de la secte, de secrets. Vous allez en savoir plus qu'un autre, plus que ceux déjà qui sont à l'extérieur, mais peut-être même plus après une certaine forme d'ancienneté. Vous allez en savoir plus que ceux qui est là depuis un an. Et vous allez donc, ça c'est vraiment par exemple la construction de la scientologie, c'est complètement
Mais c'est l'histoire de la pyramide.
Exactement, c'est très pyramidal, alors que normalement on vous vend une structure où tout le monde est égal, alors qu'en fait c'est complètement pyramidal.
Ben oui. En tout cas, c'est un livre complet. J'aurais pu encore en parler des heures avec vous, mais 30 minutes, ça passe trop vite avec vous. En tout cas, c'est un livre super intéressant où effectivement on parle de la secte, de la vie, de tous ces sujets dont on vient de parler. On les a survolés comme ça parce que 30 minutes, c'est un bon format pour un livre, mais c'est court quand on est avec vous. En tout cas, c'est Méfiez-vous des anges d'édition XO. Ça a été un vrai bonheur. Rapidement, Olivier, est-ce que vous avez le sujet de votre prochain livre? On retrouvera également Paul Green.
Alors, oui, je bosse actuellement sur mon nouveau projet qui sortira une année, je pense au printemps 2023.
Ouais.
Alors je pense, vous qui avez lu Méfiez-vous des anges, Claudine, vous savez combien Paul, au terme de cette aventure, a besoin d'une petite pause. Et on s'est mis d'accord en effet avec les équipes de XO pour le laisser un peu se reposer, se requinquer un peu avec son vieux chien.
Vous avez raison.
Sans révéler sur le rythme.
Surtout qu'il en a pris, le pauvre, il en a pris plein la figure.
Là, ça a été très très dur.
Très
donc,
dur.
En effet,
ouais.
Je pense que Paul reviendra.
Bon,
mais
super.
Même pour moi, après trois livres, j'ai envie d'ailleurs. J'ai envie d'aller fouler de nouveaux territoires, donc on restera dans le polar et le thriller. Mais on se rapprocherait peut-être un peu plus de nos terres.
En France.
On connaîtra peut-être un peu les États-Unis aussi.
Ouais. Ok. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans un an. En tout cas, c'était de nouveau un plaisir avec vous. Je n'ai pas envie de me méfier des anges, mais quand même, méfiez-vous des anges d'édition XO. Merci Olivier Ball. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un bel été, et puis écrivez-nous encore de belles choses. Merci de votre fidélité.
Merci beaucoup, Claudine.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Quant à nous, nous nous retrouvons pour de nouvelles aventures littéraires. Surtout, n'hésitez pas à lire ce dernier roman d'Olivier Ball. Vraiment, il est passionnant. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous.